I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, bienvenue dans les Fous du Volant. Ensemble, on va parler de l'actualité de la Formule 1. Et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va revenir sur ce 17e et dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Salut Stéphane, prêt à tout donner, c'est la dernière cette saison.
Oui, comment vas-tu Gilles? Prêt à tout donner, effectivement.
Exactement.
On va voir ça, on va débriefer.
On est en pleine bourre, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et comme ça, dès qu'il y aura un nouvel épisode des Fous du Volant, et ben ça apparaîtra sur votre application. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on a vécu dimanche dernier, je le disais, la 17e et dernière étape du championnat du monde de Formule 1 millésime 2020. Remporté par Max Verstappen. On reviendra donc sur la performance du Néerlandais. Ensuite, on ira gratter sur ce mystérieux week-end chez Mercedes entre un Hamilton fantomatique et un moteur asthmatique. Et puisque c'est la fin de la saison avec Stéphane Vrignot, on fera les tops et les flops de cette saison 2020, ce qui a fonctionné, ce qui a raté, ce qu'on a aimé et ce qu'on a un peu moins apprécié. Les Fous du Volant, première partie, et comme promis, on parle de Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi 2020. Une victoire qui n'a souffert d'aucune contestation, 10e victoire de sa carrière, la 2e cette saison, autant que Valtteri Bottas. Ce que tu avais relevé d'ailleurs dans ton papier sur Eurosport.fr, Stéphane Vrignot, la pole, une course dominée, pas une seule erreur, 55 tours de domination sans partage, c'est un Grand Prix hamiltonien presque. Pour Max Verstappen, pour conclure cette saison. J'ai envie de voir avec toi, parce que moi, le sentiment que j'ai eu lorsque ce Grand Prix s'est terminé, j'ai regretté Sakhir, cet accrochage entre Charles Leclerc et Sergio Pérez, et je me suis dit, et si Verstappen n'avait pas été la victime collatérale à Sakhir, est-ce qu'on n'aurait pas vécu un Grand Prix d'Abu Dhabi encore plus haut en intensité, parce que la deuxième place au championnat aurait vraiment été en jeu? Petit regret quand même, non?
Oui, j'aurais aimé le voir deuxième du championnat. Tu vois, là, juste comme ça, en passant, ça me fait penser à la deuxième place qu'avait arraché Ayrton Senna en 1987 face à des Williams Honda absolument imbattables. On n'aurait jamais imaginé ça. Il avait été déclassé finalement du dernier Grand Prix, ce qui lui avait coûté la deuxième place finale au championnat. Autrement, ça aurait été tout bonnement inimaginable. Et pour Verstappen, c'est pareil, il est passé près de l'exploit finalement de cette deuxième place à 9 points près. Au bout d'une course techniquement très bien maîtrisée, sa voiture était très bien équilibrée dans les trois portions du circuit. Il a maîtrisé la température de gomme qui a posé problème pendant 3 jours chez Mercedes. Et puis, il a fait preuve quand même effectivement d'une certaine maturité, on en avait parlé à Sakhir, il s'était fait mettre dehors indirectement par Charles Leclerc, et là il avait vraiment regretté, il s'était posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'attaquer tant que ça dans les premières phases d'une course, les premiers hectomètres, mais c'est ce qu'il faisait avant. Donc ça veut vraiment dire qu'il est passé à l'étape suivante et qu'il raisonne vraiment en termes de championnat. Là maintenant, si on lui donnait la voiture d'Hamilton, il serait prêt à se battre pour le titre sans faille.
Ouais, j'ai l'impression, pour résumer, que Verstappen est devenu adulte cette saison, comme si le fait de ne pas pouvoir jouer le titre face à Hamilton et Bottas, parce que ça, on l'a compris assez rapidement, ça l'avait obligé à prendre de la hauteur, du recul sur ce qu'on allait attendre de lui. Et finalement, ça sera un atout de plus dans sa carrière et pour son équipe dès 2021. Je pense qu'on ne va pas avoir le même Verstappen en Australie en mars 2021 que le Verstappen qui a débuté la saison en Autriche en 2020. Il sera plus mûr, plus fort sans doute encore.
Il était plein de mesures ce week-end. Vendredi soir, il a parlé des limitations sur la piste, les track limits, donc en fait les trajectoires compétitives. Quand on sort de la piste, on va au-delà d'une ligne blanche, normalement on n'est plus sur la piste, ça permet de gagner du temps. Et l'organisation avait fait ce qu'il fallait dans les virages 20 et 21. Tout débordement donnait lieu à l'annulation du chrono en cours et du suivant. Donc ça, c'était vraiment un paramètre à prendre en compte. Et dès vendredi soir, il avait dit qu'il faudra faire attention à ça. Donc, on n'a plus le même Verstappen, franchement, même depuis l'année dernière, où il essayait d'utiliser un petit peu comme un filou les limites de la piste, même au-delà. J'ai trouvé effectivement plein de mesures. Et ça pourrait payer encore plus en 2021. Tu as raison, Gilles.
Alors, autre constat concernant cette saison 2020, là aussi, c'était relevé dans ton papier de dimanche soir, Stéphane, le fait que Max Verstappen ait été victime de 5 abandons cette saison. Je crois que c'est le plus gros total pour le plateau de la Formule 1. Et alors, on a cherché ensemble, en préparant l'émission, en fait, il n'est responsable d'aucun d'entre eux. À Sakhir, il va se mettre dans le bac à gravier, mais pour éviter l'accrochage, on y revient entre Leclerc et Pérez, sinon ce sont des défaillances mécaniques, des problèmes de pneus ou des attaques de ses adversaires. C'est à la fois terrible et en même temps, là aussi, ça prouve qu'il a sans doute franchi un cap fini. La Red Bull éclatée dans le mur à Monaco. Alors tu vas me dire, on n'y est pas allé à Monaco cette saison, mais à la fois, c'est très frustrant et en même temps, c'est un signe très très fort pour la saison prochaine.
Oui, c'est un petit peu dommage parce que lui, il assure, on va dire, techniquement aussi, Red Bull fait un très très bon châssis. Et là, le gros point d'interrogation, c'est Honda finalement. Et c'est là-dessus que toutes les questions vont reposer l'an prochain. Et puis après, on ne parle pas de 2022, voilà, on ne sait même pas encore ce qu'il aura comme moteur.
Alors, tout ça fait que, et finalement, on a déjà un petit peu empiété sur le sujet, on va se poser la question pour 2021. Est-ce que Red Bull et Honda seront capables d'offrir à Max Verstappen une auto capable de concurrencer les Mercedes? Parce que finalement, il y aura assez peu d'évolution pour 2021. Et ça serait quand même dommage qu'un garçon comme Max Verstappen végète, ou en tout cas, soit pas armé suffisamment pour aller nous offrir un duel avec... avec Lewis Hamilton. Est-ce qu'on a des informations là-dessus?
Alors, il a terminé surtout 2020 crescendo. En début de saison, il a dit que la voiture lui paraissait bien et qu'il y avait juste besoin de développement parce que le comportement de la voiture était sain. Christian Horner a dit que l'année prochaine, la prochaine voiture, donc qui devrait s'appeler RB17, pour le moment, s'appelait RB16B, puisqu'elle serait... vraiment étroitement dérivée de la voiture de 2020, elle n'aurait finalement que 40% de pièces nouvelles, ce qui est un taux assez faible, puisque généralement une équipe renouvelle les pièces, une voiture, les redessine vraiment à 80-90% d'une année sur l'autre. Donc on va jouer la continuité en espérant avoir la fiabilité, en espérant faire un championnat régulier, et c'est peut-être ce qui paiera. Donc moi je trouve que cette démarche est vraiment intéressante. Et puis Christian Horner a dit aussi: on sait qu'il va falloir qu'on axe le travail de l'année prochaine sur la capacité à la voiture à être bien sur des circuits variés, ce que sait faire Mercedes depuis des années. Donc, ça sera ça l'enjeu.
Oui, clairement. Et puis, ce qu'on a vu aussi au fil des mois, et là, tu le relèves à l'instant, hein, c'est Max Verstappen qui parle du développement de la voiture. Et il a l'air aussi capable, finalement, de guider l'équipe de Adrian Newey vers une piste de développement. On en connaît et on en a connu des très très bons pilotes, mais qui étaient absolument incapables de donner un feedback utilisable par le staff technique pour faire évoluer une voiture. Ça aussi, ça sera un atout. En fait, cette victoire, cette dernière victoire de la saison 2020, elle sonne comme une projection vers 2021.
Oui, et quand tu parles, Gilles, du feedback, il y a aussi celui du deuxième pilote. Verstappen a été assez cinglant le week-end dernier en expliquant qu'il ne s'occupait pas et qu'il savait qu'il ne devait pas s'occuper du deuxième pilote, le chercher à le copier, à regarder sa télémétrie, parce que il a dit copier son coéquipier, c'est s'assurer d'avoir un temps de retard. Donc ça ne l'intéresse pas. Mais il faudrait au moins qu'il y ait émulation l'an prochain. Alors, aura-t-il Alex Albon encore comme coéquipier? On verra.
Ouais, ou Sergio Pérez, hein, parce qu'on sait que ça se joue entre les deux et que ça va se faire. Là, en tout cas, on n'a pas l'air d'être très, très pressé du côté de chez Red Bull. Ça sera le dernier point qu'on va évoquer sur ce chapitre. On n'a pas l'air très, très pressé hein, chez Red Bull, évidemment. On a toutes les cartes en main pour prendre son temps, analyser la situation, savoir si on laisse Alex Albon dans la voiture ou bien si on propose à Sergio Pérez de prendre la suite du Thaïlandais.
Alors, tu connais Gilles Helmut Marko, celui qui gère la politique des pilotes chez AlphaTauri, chez Red Bull, qui organise les promotions ou les rétrogradations. Dès qu'il sent qu'un pilote n'est pas au niveau dans un baquet, qu'il ne peut plus progresser, il s'en débarrasse. C'est arrivé plusieurs fois chez Red Bull. J'ai regardé Klein, Kvyat, Gasly, évidemment, chez Toro Rosso, Speed, Bourdais, Alguersuari n'ont pas fini leur saison. Et je pense que si vraiment la place d'Albon était en danger chez Red Bull, il l'aurait sorti de la voiture. Alors, peut-être que l'an prochain, il faudrait recruter un pilote numéro 2 qui permette aussi d'être un soutien pour Verstappen pour qu'il soit champion du monde. C'est peut-être ça aussi la clé.
Ah, toi, tu penses que la réussite de Max Verstappen, finalement, elle dépend également de la présence à ses côtés d'un deuxième pilote très, très fort. Il peut être champion la saison prochaine, en 2021, Max Verstappen, hein, clairement.
Mais un deuxième pilote, ça sert toujours à prendre des points en fait, à l'adversaire principal du leader de l'équipe. Et c'est là-dessus qu'il faudrait aussi que Red Bull travaille. Ce serait un petit peu une nouveauté chez eux. Ils ont toujours eu la politique du pilote roi. On l'a vu avec Vettel, maintenant avec Verstappen. Mais il faudrait peut-être penser à une alternative, je pense.
Le deuxième chapitre qu'on va développer dans les fous du volant aujourd'hui, c'est ce week-end mystérieux chez Mercedes. Valtteri Bottas, deuxième du Grand Prix d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton, troisième. Les Mercedes n'ont pas échoué totalement ce week-end, mais on ne les avait jamais vues aussi discrètes cette saison. Alors, on s'est dit que Hamilton était affaibli par les suites de son épisode de Covid, que Valtteri Bottas finalement était dans la continuité de ce qu'on avait vu du côté de Sakhir. Sauf que, durant la conférence de presse, Max Verstappen a mentionné la réduction de puissance des moteurs Mercedes. Et là, stupéfaction, parce qu'en fait, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas semblaient ne pas être au courant de ce point. Ça paraît incroyable. Alors, j'ai envie de poser la question de but en blanc, Stéphane. Est-ce qu'on était déjà en vacances chez Mercedes ce week-end?
Alors, je ne sais pas bien. Sur le résultat final, Toto Wolff a dit ça aurait pu être pire. Globalement, c'était ça. Ils se sont battus techniquement pour mettre les pneus à température sur tout le week-end. Ça n'a pas bien, bien fonctionné. On a vu qu'ils n'avaient pas de marge en qualification au point que Verstappen souffle la pole position. Maintenant, il y a eu ce problème de communication. Alors, ça veut peut-être dire que chez Mercedes, on est peut-être trop sûr de soi. En tous les cas, on n'a pas informé les pilotes. Ça, je trouve ça un petit peu curieux. Alors, c'est un problème de puissance. Mercedes ne vous a pas dit de combien de chevaux Lewis Hamilton et Valtteri Bottas étaient privés en course. Mais c'était la question du MGUK, c'est-à-dire un récupérateur d'énergie, de chaleur des freins. Qui est transformé en fait cette chaleur en électricité, puis ensuite restituée en équivalent de puissance. Et là-dessus, c'est vrai que Verstappen était au courant et les deux pilotes chez Mercedes ne l'étaient pas. C'est un petit peu bizarre. Pourtant, c'est Toto Wolff lui-même qui l'avait dit bien avant le départ de la course. Donc, comme quoi, il faut avoir tous les arguments en main, il faut tout savoir de ses adversaires aussi pour les battre. Je ne sais pas si ça a aidé, mais c'est. Cette cacophonie en termes de communication est quand même la troisième, hein, après Monza qui avait coûté la victoire à Hamilton. On l'avait fait rentrer dans une pit lane qui normalement était fermée puisque personne n'avait remarqué ou en fait n'avait diffusé une information comme quoi il y avait un écran qui le mentionnait très, très clairement. Il y avait eu cette histoire de la radio, voilà, c'est ça, elle restait allumée dans la voiture de Russell à Sakhir qui avait créé une interférence et les mécaniciens n'avaient pas compris en fait quel pneumatique il fallait monter sur la voiture de Russell. Et puis il y a ça, ça paraît encore plus surprenant, je dirais. Mais en même temps, Mercedes aurait pu ne jamais dire qu'ils avaient un problème de MGUK. Mais c'est la politique aussi un petit peu de transparence de Toto Wolff de raconter ce qu'il en est parce que Mercedes domine tellement que il faut quand même donner un petit peu de grain à moudre, je dirais.
Une histoire à raconter.
Raconter des histoires. Et c'est ça qui les rend finalement intéressants. Et je trouve qu'ils le font très bien, beaucoup mieux que certains, même à ce stade, à ce même stade de domination. Donc, quelque part, il faut remercier aussi Toto Wolff pour cette transparence que d'autres n'ont pas.
Alors moi, je voudrais rajouter deux points à ce que tu dis. Un, d'abord, je pense que la perte en termes de puissance, elle devait être absolument minime, parce que des garçons comme Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, si vous leur enlevez 5 chevaux sur leur voiture, ils le sentent, ils le savent, et ils vont tout de suite dire, les gars, il y a un problème. On entend régulièrement, d'ailleurs, les pilotes dire « no power, no power », et puis finalement, il ne se passe rien. Alors, il y a peut-être un micro-bug qui fait que, pendant quelques dixièmes de seconde, ils perdent quelques chevaux, mais je suis absolument certain qu'un garçon comme Lewis Hamilton, si vous lui enlevez 5 chevaux sur sa voiture, même s'il y en a 800, 900, il va vous dire « hop, 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 il en manque, remettez-moi le plein, s'il vous plaît ». Le deuxième point que je voulais évoquer, je te posais la question, est-ce qu'on était déjà en vacances chez Mercedes ? C'était un petit peu ironique, mais pour moi, ça souligne aussi l'importance déterminante d'un garçon comme Lewis Hamilton dans cette équipe. Ce week-end, il était fatigué, il est peut-être revenu un peu tôt, il n'avait vraiment pas envie de laisser sa place un deuxième week-end, mais il n'avait sans doute pas cette capacité d'entraînement, de mobilisation autour de lui qu'il a habituellement. Et je pense que ce n'est pas totalement un hasard si on s'est retrouvé, on a senti quand même un petit peu de mou là, chez Mercedes, et je suis absolument certain que c'est dû directement à l'état physique. Un pilote comme Hamilton, il fédère, il l'emmène, il porte son équipe. Et là, ce week-end, il était moins en mesure de le faire. Et ça s'est immédiatement ressenti dans le box. Et finalement, du haut en bas de la hiérarchie de cette équipe Mercedes F1.
Alors, tout à fait, Gilles, j'ajoute une chose, effectivement, c'est que en fait, Hamilton s'est fait challenger par Albon en fin de course. Et jamais pendant le week-end, il s'est mis dans le rouge, à part en Q1 et en Q2, et en Q3 évidemment pour tenter la pole position, mais en Q1 et Q2 pour sentir la piste qui évoluait beaucoup, parce que la séance était de nuit et la température de piste évoluait. Donc ça, il voulait être au plus près du ressenti de sa voiture. Et puis il a fait un effort en Q3. Et à part ça, c'est vrai qu'il a fait il a essayé de faire les 55 tours sans savoir, en les attaquant, si dans quel état de forme il serait à la fin. Donc ça, on le comprend bien.
Voilà. Est-ce qu'on fait un dernier point sur le point de vue, le bilan sportif de ce week-end, avec un Valtteri Bottas qui a été... alors, il est devant Hamilton, mais finalement assez transparent encore.
Mais il n'a pas pris le leadership. Pour la deuxième fois, il avait l'occasion. Et je trouve que c'est ça, c'est qu'il doit être en backup, il doit être le joker de luxe de l'écurie s'il ne parvient pas à faire quelque chose. Moi, je trouve même finalement qu'il est moins bon que Barrichello par rapport à Schumacher chez Ferrari, tout simplement. Là, il y a un vrai souci. Toto Wolff a dit clairement que... Alors, Toto Wolff, on a su ce week-end aussi que Russell a un contrat de 10 ans. Avec Toto Wolff, donc Toto Wolff a envie de lui donner un bon volant bientôt, et qu'il a dit que son heure viendrait, mais qu'il respecterait ce contrat, sa loyauté vis-à-vis de Bottas, avec qui il a signé jusqu'en 2021. Donc je pense vraiment que Russell est prêt du baquet de la seconde Mercedes pour 2022, ce qui serait assez logique.
Écoute, je pense que moi, je suis assez impatient de revoir les Mercedes en début 2021, parce que cette dernière épreuve, elle nous laisse quand même un petit peu en suspens. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Évidemment, ils ont été exceptionnels cette année. Mais ça donne quand même une drôle d'impression, et je pense que ça a dû envoyer un petit message en disant à tous les autres, finalement, on peut flancher, nous aussi. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, toi.
Alors, ça, on peut peut-être le retrouver dans les paroles de Toto Wolff, qui avait admis à la mi-octobre que Mercedes avait arrêté le développement de sa voiture, la W11, cette année et depuis un bon moment. Donc, ça devait faire peut-être que Mercedes arrêtait le développement en septembre ou début octobre, mais pour concentrer les ressources sur 2021 et surtout 2022. Et Wolff avait dit... On sait depuis plusieurs années qu'on commence très bien, qu'on stabilise avec des résultats constants en milieu de championnat et qu'on arrête le développement plus tôt que les autres, et les autres, à la fin, nous rattrapent, reprennent du terrain. C'est exactement ce qui s'est passé cette année. Je pense que tout ça, c'est un petit peu provisionné, finalement.
Bon, on verra tout ça. Et là encore, on sera pressé d'être début 2021 pour voir les premiers tours de roue des machines qui prendront la suite des autos qu'on a vues cette saison. On a vécu ensemble le dernier Grand Prix cette année. Et donc, pour terminer cette saison, cette première saison aussi des Fous du Volant avec Stéphane, on a eu envie de faire le tour d'horizon des tops. Ce qui nous a plu, ce qu'on a trouvé bien, ce qui nous a enthousiasmé durant cette saison 2020. Je me permets de commencer, Stéphane. Mon premier top à moi, c'est un coup de chapeau que je voudrais adresser aux organisateurs. Parce que, alors, il y a eu effectivement ce côté un petit peu incongru de faire traverser toute la planète au paddock de la Formule 1 pour aller en Australie pour l'ouverture de la saison. Finalement, ce Grand Prix n'a jamais eu lieu. Mais malgré cela, avec quasiment 4 mois de retard, on a réussi à remettre sur pied une vraie saison, 17 Grands Prix pour la saison 2021, avec des habitudes qui ont été bousculées, avec un planning vraiment à marche forcée, mais force est de constater qu'on a eu une vraie saison avec un vrai championnat, un vrai champion. Et finalement, rien que ça, je trouve que c'est déjà un exploit. On a eu aussi des expériences très intéressantes avec un ou deux Grands Prix sur le même circuit. Et puis à Sakhir, où on a même eu deux spécifications de tracés différentes au même endroit. Ça a plutôt bien marché. Moi, j'ai bien aimé la version « indie » entre guillemets du circuit de Sakhir. J'avais envie de féliciter quand même les organisateurs parce qu'ils ont été très réactifs et ils ont su nous offrir une saison, une vraie saison de Formule 1. Alors que franchement, on va dire qu'au mois d'avril, c'était chaud quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Alors, on n'y croyait pas tellement, on attendait de voir ce que ça allait donner. Et puis, il faut rappeler que la Formule 1, c'était le premier championnat du monde d'envergure qui a mis en place un protocole sanitaire qui était viable. On était parti pour deux Grands Prix au départ à Spielberg. On a eu, je crois, cinq dates au calendrier, puis huit. Et puis après, ça, le calendrier s'est étendu jusqu'à 17. Mais on était sûr de rien, effectivement, à cette époque-là. Alors moi, Gilles, je vais te parler juste rapidement de mon top de l'année. C'est le Halo, tout simplement. Qui a sauvé la vie de Romain Grosjean. On ne l'aimait pas parce que...
Le halo, hein. Le halo, vrai, pas, le halo. Pas Romain.
on n'aimait pas ce dispositif de sécurité passive qui a vraiment rempli son office. Et pour les gens qui l'ont créé à la FIA, qui l'ont imposé, c'était entre guillemets pas une surprise parce qu'ils savaient de quoi il était capable, mais... On l'a vu dans un épisode Grandeur Nature, c'était spectaculaire et on a été heureux de voir que, enfin, on sait maintenant qu'un pilote peut sortir comme ça d'un accident absolument effroyable.
Tu as bien raison de mentionner le halo. Moi, mon deuxième top, c'est pas très très original, mais c'est Lewis Hamilton. Septième titre de champion du monde pour le Britannique, 95 victoires au total pour le pilote Mercedes. Et puis un niveau d'engagement toujours au top. Et finalement, ce Grand Prix d'Abu Dhabi, où on l'a vu un petit peu diminuer, ça souligne l'importance qu'il a dans cette équipe Mercedes, l'influence qu'il a de chaque fois donner absolument 100% et de son talent et de son engagement. Je vais reprendre des mots que tu as employés un petit peu plus tôt cette saison parce que je les ai trouvés très très bien finalement appropriés à la situation. On vit en ce moment un privilège de voir évoluer sous nos yeux un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et je ne peux m'empêcher de me faire cette réflexion que finalement la seule chose qui manque à Lewis Hamilton, eh bien, c'est un grand adversaire comme Ayrton Senna a eu Alain Prost. Et réciproquement, il lui faudrait en fait quelqu'un qui puisse, avec une équipe adverse, donner encore plus de son talent et de son engagement. Mais c'est absolument la seule chose qui lui manque, et ça dépend pas de lui. Mais je trouve vraiment qu'il a été encore une fois assez exceptionnel cette saison.
Oui, Gilles. Alors moi, je passe à mon top suivant, qui est en fait les track limits. Je m'explique, ça a été la fin des polémiques tout simplement cette année sur qui a mis une roue en dehors de la piste ou pas, à tel ou tel virage, est-ce que ça lui a fait gagner du temps? Voilà, Verstappen était très habile sur ce plan-là, et le fait qu'il ait intégré aussi ces choses-là et qu'il ne se soit pas plaint après des séances de qualif ou de course montre bien que le système est maintenant régulé, et je trouve que c'est un progrès vraiment pour la lisibilité tout simplement du sport.
Et on se souvient que Verstappen avait été quasiment monté à deux reprises sur le podium avant d'être rattrapé par la patrouille, justement parce qu'il avait dépassé les limites en course. Et c'est vrai que c'est toujours un peu désagréable. Là aussi, bravo à la direction de course pour avoir effectivement éclairci ce genre de situation. Encore un top, évidemment, Pierre Gasly qui a mis fin à 24 ans d'attente pour les Français avant de rentendre de nouveau une Marseillaise sur un podium de Formule 1. Ça, c'est évidemment un des tops. Ça débouche sur un point d'interrogation. 2021, ça sera la croisée des chemins pour Pierre Gasly. Il a montré qu'il était capable de mener une équipe. Il l'a fait chez AlphaTauri. Il va falloir le faire encore davantage en 2021 pour prendre définitivement son envol, séduire une autre équipe, parce que AlphaTauri ne l'emmènera jamais vers les plus hautes sphères du championnat, et c'est immanquablement ce qu'il mérite, Pierre Gasly, on est d'accord?
Oui, et puis je retiens son dépassement dans Eau Rouge sur Pérez, qui ressemble vraiment au dépassement de l'année, à la manœuvre de la saison. Donc bravo à lui pour tout ça, il a vraiment fait le spectacle cette année, c'est absolument génial. Et il est quelque part aussi dans mes tops parce qu'il fait partie des 5 vainqueurs différents cette année, dont de nouveau, c'est une première depuis 2012, depuis Maldonado et Rosberg. Donc, c'est pas si courant que ça. 4 écuries aussi qui gagnent. On n'avait pas vu ça depuis 2013. Donc, il y a une sorte de renouvellement. Et comme quoi, on n'a pas besoin de grille inversée pour varier les vainqueurs.
C'est bien, tu es formidable, tu n'en démords pas. Mon dernier top, c'est Renault qui termine certes 5e au classement des constructeurs. Les tricolores étaient à la bagarre avec McLaren et Racing Point. Ils ont perdu cette explication, mais ils ont quand même terminé au contact de McLaren et de Racing Point. On a vu une montée en puissance tout au long de la saison, une équipe aussi bien vivre, bien grandir, bien travailler ensemble, et on sait que c'est souvent le plus compliqué. Finalement, on a le sentiment là que tous les éléments maintenant sont réunis pour sortir de la moitié du classement, là, pour aller maintenant vers le dernier tiers le plus haut chez les constructeurs.
Oui, tout à fait. Ça fait plaisir de revoir cette écurie. Je crois que c'est le meilleur résultat, McLaren, 3e du championnat, depuis 2012, depuis l'époque du moteur Mercedes, qu'ils vont retrouver l'an prochain. Donc ça, enfin, je ne sais pas si c'est un gage de plus de puissance, puisque finalement, là, c'est Renault qui a fait le job et qui leur a permis de revenir. Mais,
il paraît qu'ils ont des problèmes de MGUK chez Mercedes.
Mais en tous les cas, oui, ça fait plaisir parce que c'est une écurie historique. J'ajouterais que c'est la deuxième plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1 derrière Ferrari et devant désormais Mercedes, qui a accédé au podium cette année en délogeant Williams au nombre de titres mondiaux, je crois qu'ils sont à égalité, mais de victoires. Globalement, Mercedes a un plus beau palmarès que Williams.
Voilà donc nos tops à Stéphane Vrignot et à moi pour cette saison 2020. Alors forcément, puisqu'on a parlé des tops, eh ben, les fous du volant, on va les terminer en parlant des flops sur cette saison 2020. Parce que évidemment, il y a plein de choses qu'on a beaucoup appréciées. Puis il y a des trucs qu'on a un petit peu moins aimés ou qui nous ont déçus. J'attaque Stéphane et je vais m'attaquer. Le pauvre, il a vraiment pas de chance. À Valtteri Bottas, certes vice-champion du monde cette saison, mais à 124 points de Lewis Hamilton. Du point de vue comptable, c'est le pilote qui est le plus loin de son coéquipier. Alors tu vas me dire, forcément, quand ton coéquipier a marqué 20 points, tu es sûr que tu ne peux pas être à plus de 120 points. D'accord. Bon. Mais il a failli ne pas terminer à cette deuxième place du championnat avec la voiture qui était quand même un ton au-dessus par rapport au reste du plateau. Il a été, pire que ça, il a été dominé à Sakhir par un débutant dans la voiture George Russell, qui vraiment a failli s'imposer, qui l'a tourné en bourrique pendant tout le Grand Prix. Clairement, 2021 risque d'être la dernière saison de Valtteri Bottas chez Mercedes. Il va falloir montrer plus du côté du Finlandais.
Oui. Alors moi, pour mon premier flop, c'est presque une évidence, c'est Ferrari, sixième du championnat constructeur, le plus mauvais résultat depuis 1980. Ça veut dire que Ferrari, surtout, est passé dans la deuxième partie du tableau. Quand on regarde le classement des constructeurs, c'est quand même choquant. Zéro victoire, c'était arrivé déjà en 2014, 2016. C'est pas une habitude, mais presque, entre saison on et off. Là, c'est vraiment un échec de ce point de vue-là, et c'est même un fiasco si on regarde le nombre de tours menés. Cette année, il n'y en a eu aucun, et ça, c'est une première depuis 1992. Rien à retenir, ou presque, des trois podiums de Ferrari qui ont à peine sauvé les apparences, et en tous les cas, qui montrent qu'il y a eu un problème à tous les niveaux, finalement, technique et gestion des pilotes. Hein.
Oui, bah justement, moi c'est mon deuxième flop et ça concerne Ferrari, la gestion du cas Sébastien Vettel. On avait fait venir le quadruple champion du monde en provenance de chez Red Bull avec l'idée finalement d'effacer l'échec Alonso et de reprendre un petit peu la thématique pilote allemand Scuderia Ferrari. Et non seulement ça n'a pas marché, alors c'est sans doute pas plus la faute de la Scuderia que de Sébastien Vettel lui-même, mais en revanche, annoncé avant le début de la saison, dans un contexte quand même qui était assez compliqué, et de cette façon-là, qu'on ne garderait pas Sébastien Vettel, je le répète, il n'a sans doute pas été exemplaire lui non plus, mais c'était déjà se mettre dans les ennuis avant la première séance du premier Grand Prix de la saison pour la Scuderia. Ça s'est réorganisé, on voit que ça bouge en ce moment même chez Ferrari, hein, chez la maison mère. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de l'équipe de Formule 1. Mais honnêtement, j'ai pas aimé cette fin d'aventure. Quand on voit comment on se sépare entre Renault et Ricciardo, alors que Renault aurait voulu garder Ricciardo, hein, et que finalement, c'est pas une bonne affaire pour Renault que Ricciardo ait choisi d'aller chez McLaren. Mais quand on voit comment on a réussi malgré tout à continuer à travailler ensemble en bonne intelligence et dans le bon esprit, eh ben, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à faire pareil chez Ferrari. Et c'est normalement le job d'un patron, d'un manager, de faire fonctionner son équipe jusqu'au bout, même jusqu'à la veille de la fin d'un contrat. Et là, de ce côté-là, la Scuderia a failli.
Oui, et puis Vettel, il parle un petit peu de façon indirecte quand il fait son podium à Istanbul. Il dit c'est peut-être parce que Mattia Binotto n'était pas là. Bon, en tous les cas, il devrait venir moins souvent parce que je fais des podiums. Et puis ce week-end, Mattia Binotto n'était pas très bien portant. Il est rentré chez lui et Vettel a dit que l'atmosphère du garage lui manquait et tous les gens qui étaient dans le garage. Donc, comme par hasard, Mattia Binotto n'y était pas. Donc, ça voulait vraiment dire qu'il avait aimé les gens, mais que le courant n'était pas passé avec Mattia Binotto, c'est vrai. Et pour Vettel, trois présences en Q3 sur 17 Grands Prix, quand on a une Ferrari dans les mains, quand même, on n'a pas le droit, tout simplement.
Alors, il y a une autre équipe. Décidément, les équipes italiennes prennent cher avec nous. Tu voulais nous parler d'une autre équipe italienne, toi, dans tes flops.
Rapidement, c'est Alfa Romeo, parce que marque 8 points, je crois, 4 pour Giovinazzi et 4 pour Raikkonen. Et pour moi, le moteur Ferrari a bon dos, mais il y a aussi autre chose. Pourquoi garder Raikkonen qui s'est fait taper en qualif par Giovinazzi, qui n'est pas un crack, on va dire comme ça. Il s'est fait battre de justesse, je crois que c'est 9-8 sur les duels du samedi en qualification. Mais ça donne quand même une idée du déclassement. Je sais pas quel est son apport réel techniquement. J'ai plutôt l'impression que Fred Vasseur avait peut-être du mal à trouver un autre pilote d'envergure. Il y a pourtant des gens comme Pérez, comme Hülkenberg, mais il leur a fermé la porte assez vite. Il a même donné carte blanche en fait à Raikkonen pour continuer. Mais moi, je me pose des questions, pourquoi tout ça? Et puis Ferrari, de son côté, est très content de reconduire Giovinazzi. Alors, il termine 8e au championnat constructeur. Haas a marqué 3 points. Ça leur en fait 5 de plus que Haas. Williams n'a pas marqué. Mais franchement, c'est une saison médiocre. Et la politique en fait, d'Alfa Romeo est assez lisible pour moi. Voilà.
Alors, mon dernier flop, Stéphane. J'anticipe déjà, tu vois, je me mets en colère par avance. Bah, c'est le calendrier 2021, parce que j'avoue que je suis un petit peu frustré de voir qu'on n'est pas reconduit des tracés comme le Mugello, comme Portimao, où on a vécu vraiment des courses assez sensationnelles pour le calendrier 2021. Et on a donc gardé des destinations comme Sochi et même le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Ça équivaut à un comprimé de Valium, hein. C'est même à regretter qu'il n'y ait pas de page de pub pendant les Grands Prix. On ne sait jamais, il peut y avoir des pubs intéressantes parfois. Bon, bah, là, sur ces circuits-là, on sait que c'est mort, il ne va rien se passer, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller prendre un café, faire tout ce que vous avez à faire, vous revenez, il ne se sera rien passé. Je trouve ça frustrant. Alors, dans le calendrier 2021, il y a une date qui est mise en réserve. J'espère qu'on retrouvera soit Portimao, soit le Mugello, parce que vraiment un beau circuit en Formule 1, qu'est-ce que c'est bien.
Oui, c'est à la place du Grand Prix du Vietnam. C'est vrai qu'on a découvert qu'il y avait des circuits en Europe qui sommeillaient et qui pouvaient être utilisés pour la Formule 1. Mais ça, c'est toujours pareil. Une épreuve de Formule 1, c'est un montage financier. Tout d'abord, c'est un promoteur qui fait un pari sur une course, un endroit, et qui doit régler le prix du plateau, c'est-à-dire payer un ticket d'entrée au promoteur de la Formule 1, généralement 20-25 millions d'euros pour avoir le droit d'organiser une course. Cette somme-là sera redistribuée ensuite aux écuries. Ce promoteur se débrouille avec la billetterie, avec ses partenaires pour son équilibre financier. Et là, on a pris des circuits un petit peu rapidement à la va-vite, mais il y a eu des bonnes pioches, effectivement, Portimao, Mugello, mais on savait que c'était des one-shots.
Alors, il te reste un flop, mon Stéphane, avant de conclure.
Oui, bah c'est toi, Gilles, parce que nous avions fait des paris audacieux en début de saison. Je sais, tu as la mémoire courte.
Hein. Tu m'as fait peur.
C'était au mois de mars, avant qu'on observe 3-4 mois de pause pour ça. Mais souviens-toi, Gilles, tu nous avais annoncé Verstappen champion du monde.
Oui.
Là, tu avais carrément flambé sur ce coup-là. C'était absolument pas raisonnable.
Ah là, je me suis mis dans le mur en sortant des stands. Hein.
Directement, tu nous as fait effectivement une Grosjean à Bakou ou une à Sochi.
Écoute, c'était à la fois un pronostic et en même temps une envie, parce que je m'étais dit, si Verstappen est champion du monde, ça veut dire qu'on va avoir une saison sensationnelle. Mais c'est vrai que je me suis trompé dans les grandes largeurs, donc j'accepte d'être ton dernier flop pour cette saison. Et ben, je vais te renvoyer la politesse, mais en faisant de toi mon top supplémentaire, parce que alors toi, à l'inverse, tu avais prédit la réussite de Hamilton, me semble-t-il. Et puis, tu avais pris certains risques. Tu avais notamment dit que Daniel Ricciardo montrait à deux reprises sur le podium. Tu as lu dans les astres que l'Australien allait gravir le podium à deux reprises cette saison. Et c'est ce qui s'est passé. Tu avais aussi dit que Ricciardo prendrait l'avantage sur Esteban Ocon. C'est ce qui s'est passé, même si on a vu que le Français, sur la fin de saison, est allé lui aussi chercher son podium et qu'il avait commencé à refaire un petit peu son retard. Mais bravo, Stéphane, parce que celle-là, fallait aller la chercher. Quand même.
Disons que oui, les deux podiums de Ricciardo, j'avais prévu d'en dire un au départ. Et puis là aussi, c'est pareil, j'avais doublé la mise. Le dernier podium de Renault en Formule 1 remontait à 2011. Alors, ça faisait quand même 9 ans, et vu la saison 2019, bon, ça n'avait rien d'évident. Par contre, en ce qui concerne Ricciardo, je le voyais dominer nettement Ocon. C'est quelqu'un quand même qui s'est mis au niveau de Verstappen chez Red Bull pendant des années. Et puis, Ocon sortait quand même du saison blanche. En 2019, il n'avait pas piloté. Donc, il y a eu 2-3 dixièmes d'écart toute la saison, et Ocon a couru après. Il a fini par les rattraper juste à la fin. Mais bon, le bilan, c'est vrai, largement en faveur de Ricciardo, qui l'a battu 15 fois sur 17 en qualif et qui doit avoir 50% de points en plus au championnat et qui a raté la quatrième place. Pas pour beaucoup. Donc, mais bon, en tous les cas, c'était dans l'ensemble une belle saison pour Renault.
Bon.
Et je t'en remercie, Gilles, pour ta sportivité.
Voilà donc les coéquipiers des fous du volant qui s'envoient des flops et des tops à la tête pour conclure cette année 2020. Merci, Stéphane, d'avoir partagé cette saison. On va saluer également Adrien Yo, qui est juste à côté là, et qui veille au bon déroulement de chaque enregistrement de podcast. Podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. Allez, soyez sympa, mettez-nous 5 étoiles pour la dernière de la saison. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que quand ça va reprendre, eh ben, si vous êtes abonné, vous recevrez directement une alerte. Et vous ne louperez pas le premier numéro des Fous du Volant qui aura lieu. Et ça sera un petit peu avant le début de la saison. Premier Grand Prix, je crois que ça doit être le 21 mars en Australie. 21 mars 2021. Oh, c'est loin, c'est loin. Mais ça va faire du bien de se reposer un peu, parce que là, cette saison, on l'a vécu pied au plancher. Merci encore, Stéphane. On essaye de se synchroniser pour la dernière phrase.
Tout à fait, la formule consacrée.
Le contact. Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.